carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le château de Lacoste, dans le Luberon, accueille pour la deuxième année consécutive une exposition de sculptures. Pierre Cardin, membre de l'Académie des Beaux-Arts, avait demandé l'an dernier à ses confrères sculpteurs d'exposer sur les terrasses du château du Marquis de Sade, qu'il a entièrement restauré ces dernières années pour l'ouvrir au public dans le cadre d'un festival. Le succès de cette exposition auprès du public l'a conduit à présenter dans ce lieu exceptionnel une nouvelle exposition, cette fois consacrée à l'art cinétique et interactif, avec des œuvres venues parfois de fort loin. L'idée est de rendre hommage aux plus grands créateurs de l'art cinétique, des pionniers aux contemporains. 5 noms pour des œuvres très grand format, pour certaines, qui sollicitent le visiteur par le toucher, la perception visuelle, le mouvement, le son, l'interaction, l'expérience, l'expérimentation, le jeu sont au rendez-vous quand on est face aux œuvres. On pourrait dire que les sculptures d'Agam, de Cruz Diez, d'Iquili, de Nicolas Schoeffer et de Soto vous invitent au château de Lacoste dans le cadre de l'exposition Sculpture en mouvement, ouverte tous les jours du 2 juillet au 2 octobre 2011. Avec nous aujourd'hui, Lydia Rambourg, correspondante à l'Académie des Beaux-Arts, historienne de l'art et critique d'art, commissaire de cette exposition audacieuse, nous présente les œuvres en présence et nous restitue l'art cinétique et interactif. Lydia Rambourg était déjà la commissaire de l'exposition de sculpture à Lacoste l'an dernier. Bonjour Lydia Rambourg.
Bonjour.
Alors en quoi consiste, plusieurs courants sont ici représentés dans le cadre de cette exposition, est-ce que vous pourriez nous, justement, nous expliquer un peu en quoi consiste l'art cinétique ?
Eh bien, il y a effectivement les pionniers de l'art cinétique avec Yaakov Agam, Carlos Cruz Diez et Raphaël Soto. Agam et Soto ont fait partie de cette exposition désormais historique qui s'est tenue chez Denise René, la galerie Denise René à Paris en 1955. Change un peu son orientation. Elle est consacrée à l'abstraction constructiviste. C'est vraiment la galerie où se tient l'avant-garde. Et puis, elle ne se trouve pas dans une impasse, mais il y a quand même une espèce d'essoufflement, on va dire. Et donc, il y a une ouverture qui est donnée par l'idée du mouvement qui pourrait être introduit dans la sculpture. Alors, derrière cette idée du mouvement, sans remonter aussi loin, il y a Marcel Duchamp, qui d'ailleurs sera invité dans cette exposition, parce qu'il y a son œuvre « La rotation demi-sphère ». Mais en fait, l'idée sera donnée par Pontus Ultène, qui va suggérer donc à Denise René d'inviter des artistes qui travaillent déjà le mouvement en sculpture, et notamment Soto, Agam, qui sont les deux grands noms qui vont participer à cette exposition. Et initialement, il y a aussi, l'impulsion est donnée par deux artistes danois qui étaient à Paris depuis 1947 et qui sont Jacobsen et Mortensen, qui sont aussi des artistes de la galerie. Alors, pour revenir à l'exposition de Lacoste, M. Cardin, à ses débuts, a effectivement connu ces artistes qu'il a découverts à la galerie Denise René. Et donc, il avait souhaité cette année que l'exposition de sculpture soit vraiment axée sur la sculpture en mouvement.
Alors, on va peut-être rentrer directement dans les œuvres. Peut-être avant de commencer, un mot quand même sur l'art cybernétique aussi, pour le situer dans le temps, par rapport à l'art cinétique.
L'art cybernétique, c'est l'art total, c'est l'art absolu. Et c'est Nicolas Schoeffer, bien évidemment, qui en est le grand pionnier. On parle maintenant d'art interactif, hein. Donc c'est une autre histoire. Mais pour l'art cinétique, c'est effectivement cette relation à l'espace, mais surtout cette interaction de la lumière, de la couleur, qui est vécue physiquement par le public.
Lydia Rambourg, présentez-nous l'œuvre d'Agam que vous avez réussi à faire venir jusqu'à Lacoste, ce qui est une belle performance.
Oui, alors Yaakov Agam est né en Israël en 1928, mais il s'est établi en France en 1951 et il était formé au principe du Bauhaus. Il va séjourner aux États-Unis et puis quand il revient à Paris, donc dans les années 50, il va fréquenter l'atelier d'art abstrait qu'ont créé Jean Devanne, également un académicien, et Edgar Pillet. Alors, très vite, il y a bien sûr cette exposition d'art cinétique, Le Mouvement chez Denise René. Mais dès 1970, Agam connaît un très très grand succès avec des commandes d'œuvres aux États-Unis, en France, et il va axer tout son travail sur le mouvement, mais en travaillant l'acier inoxydable. Alors, ce sont des sculptures qui se transforment à l'infini par la réflexion et le déplacement du spectateur. Le spectateur devient vraiment l'acteur de métamorphoses inattendues pour une multitude d'espaces. L'œuvre présentée à Lacoste s'appelle « Double mille portes ». Et cela consiste en une série dégradée de formes quadrangulaires, donc qui sont ouvertes comme des portes, et qui sont appelées à être manipulées par le spectateur. C'est-à-dire que, pour une fois, alors qu'on donne toujours la consigne de ne pas toucher les œuvres d'art, eh bien là, le spectateur, au contraire, ne peut faire vivre cette œuvre que s'il la manipule. Donc, il déplace à son gré, suivant son imaginaire, suivant ses instincts, suivant son inspiration. Il déplace donc ses rectangles et il en fait un jeu de construction qu'il imagine et qui est variable, bien sûr, suivant chacun.
Comment vous situez, alors dans un registre tout à fait différent, Lydia Rambourg, l'œuvre de Philippe Ikili?
Alors, Ikili, c'est un de nos sculpteurs français. Il est né en 1925 à Paris. Il a une formation tout à fait traditionnelle, je dirais même classique, puisqu'il est dans les ateliers de Gimond et de Janiot, avec César et avec Albert Ferraud, également un de nos académiciens. Et alors, avec ses deux camarades, il va très vite expérimenter le métal, le fer en l'occurrence. Alors, il passe chez Germaine Richier, qui va être un apprentissage extrêmement précieux pour lui. C'est lui qui réalise les socles de ses sculptures. Et bien sûr, il va être à la fois dans ce monde encore du modelage, et puis il s'ouvre quand même définitivement, il rompt complètement avec ce classicisme pour vraiment être dans un autre héritage qui est celui de González, avec le fer qui est coupé, soudé. Et donc là, c'est toute l'histoire de la soudure du fer. Et puis ensuite, du laiton qu'il travaillera également.
Lydia Rambourg, présentez-nous l'œuvre exposée.
Eh bien, c'est une figure féminine, extrêmement stylisée, ludique, et qui est constituée de plusieurs fragments, des formes qui sont découpées, soudées donc, avec des profils bombés. Donc, c'est une petite femme qui s'appelle la marathonienne.
Enfin, qui est quand même plus grande que nous.
Oui. Mais ce sont ces petites bonnes femmes, avec beaucoup d'humour, Ikili appelle les équilibristes. Et là, en effet, c'est tout à fait le cas, parce que ce personnage féminin s'anime suivant la force du vent, ce que nous entendons à Lacoste, et donc les différents éléments qui se heurtent. Donc, ce n'est pas du tout répétitif, puisque c'est un son qui naît en fonction de la puissance du vent, encore une fois. Ce qui fait que c'est un gong, on a l'impression d'avoir une sonorité venant d'un monastère tibétain. Il y a cette sonorité très claire et très sonore en même temps.
Parmi les sculptures de Philippe Ikili, celle-là est-elle particulière? Pourquoi l'avez-vous choisie?
Eh bien, je l'ai choisie aussi en fonction des sculptures qui étaient disponibles, parce que, je dirais, la difficulté d'une exposition comme celle-ci, c'est d'obtenir des pièces qui sont prêtées par les ateliers. C'est le cas de Cruz-Diez, par Soto. Donc, ce sont les ateliers, les fondations de ces deux grands artistes. Agam est parmi nous et donc lui aussi, il a des sculptures qui circulent pas mal à travers le monde. Il a un atelier dans lequel il conserve aussi des sculptures. Donc, il fallait arriver à trouver la sculpture qui était disponible pendant cette période. Alors, Ikili, c'était celle qui était disponible, mais qui est tellement significative de son travail, qui à la fois est nourrie de culture archaïque et d'art primitif, mais qui aussi s'ouvre à un surréalisme qui n'échappe à personne, bien évidemment.
Alors, il y a également une immense, j'allais dire, sculpture, le pénétrable de Jesús Rafael Soto, un qui s'appelle Bleu, qui date de 1993. Pour donner une petite idée à nos auditeurs, je vais simplement dire que la structure en question fait 3 mètres sur 4 et sur 8 de long, mais qu'ici elle a été raccourcie à 3 mètres, que c'est une œuvre très connue pour ce bleu magique.
Un bleu qui joue d'une façon magique, effectivement, avec le bleu du ciel de... de la Coste et de toute cette vallée du Luberon. Alors, cette pièce monumentale, effectivement, est très célèbre parce qu'elle circule.
Dans le monde entier.
C'est une pièce qui a été éditée depuis le premier pénétrable qui a été montré à la galerie Denise René en 1967. Alors, il s'adapte suivant le lieu. Donc, effectivement, il est variable. Il peut faire, comme vous l'avez dit, 6 ou 7 mètres de long. Il peut faire jusqu'à 14-15 mètres de long dans des espaces qui sont forcément immenses et qu'il exige. Là, ici, en fonction de cette cour du château de la Coste, qui est la deuxième cour et qui, elle, est entièrement pavée de pierre. La première cour, c'est de la pelouse, sur laquelle il y a donc la sculpture d'Agame et les trois douches d'induction chromatique de Cruz Diez. On rentre dans le deuxième espace, qui, lui, est vraiment la cour d'honneur du château. Et là, il y a ce grand pénétrable dans lequel nous rentrons parce que, effectivement, c'est un volume virtuel qui est installé dans l'espace pour une interaction entre la lumière et les couleurs, mais aussi qui, là encore, exige notre présence.
Alors, que fait le spectateur quand il arrive?
Alors,
d'habitude,
il faut expliquer un petit peu comment ces œuvres, ce pénétrable est fait. Il est constitué de fils à partir de matériaux flexibles, donc ce sont en fait des grands fils en plastique, on va dire, hein, qui sont extrêmement serrés et qui sont suspendus à une structure et qui se mettent à bouger quand le spectateur rentre. Donc il y a à la fois un effet de vague, si vous voulez, on rentre dans la lumière, on fait l'expérience de la lumière et de l'espace, on devient soi-même lumière, on devient soi-même espace, et c'est la magie de ce pénétrable qui, encore une fois, a une perception environnementale et qui a des vibrations optiques permanentes qui ne sont jamais les mêmes. Donc, comme le fait remarquer Cruz Diez, l'art cinétique, en fait, ce n'est plus un art en tant qu'art ou à partir d'un objet, puisque une sculpture est un objet, un tableau est un objet, ça devient une véritable expérience, une expérience physique. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est ça qui fait que c'est une expression tout à fait nouvelle dans l'histoire de l'art.
Alors, Soto n'est plus de ce monde?
Non, il est décédé en 2005, il était vénézuélien, comme Cruz Diez, ils sont compatriotes. Et donc, il est un des pionniers de cet art cinétique et puis ensuite du mouvement Op Art qui en découle.
Merci Lydia Arambourg et à bientôt sur notre antenne.
Merci.
Retrouvons le sculpteur Carlos Cruz Diez qui a fait le voyage pour l'inauguration de cette exposition Sculpture en mouvement et qui va nous parler des œuvres qu'il présente à la Coste. Trois douches d'induction chromatique, une œuvre effectivement pionnière qui date de 1968. Retrouvons-le. Carlos Cruz Diez, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder une interview aujourd'hui à la Coste.
Plaisir.
Où vous avez une sculpture qui est présentée, une installation qui s'appelle « Trois douches d'induction chromatique » qui date de 1968. Mais pour vous présenter, avant que vous nous parliez un petit peu de cette œuvre, pour les internautes, en quelques mots, je dirais que vous êtes né en 1923 à Caracas.
Il y a longtemps.
Il y a longtemps, que vous vivez à Paris depuis les années 60. Que vous êtes un des pionniers de l'art cinétique et en particulier vous intéressez énormément à la couleur en particulier et à la perception qu'on a de la couleur dans des sculptures en mouvement, des installations en mouvement. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter, Carlos Cruz Diez, cette œuvre présentée, là, exposée?
Bon, et puis les Andes, je m'intéressais justement à trouver une autre notion de la couleur, même à l'école des Beaux-Arts. Ça m'ennuyait de faire la peinture sur une toile. Appliquer la peinture avec un brosse sur une toile, c'est pas suffisant, ça. Alors, avec mon inquiétude d'étudiant, après, dans le temps, ça a commencé à faire une recherche très longue, ça m'a pris beaucoup d'années, pour voir s'il y avait la possibilité de donner une autre notion, une autre perception de la couleur, que simplement quelque chose appliqué sur une surface. Alors, j'ai trouvé la couleur dans l'espace. Et la couleur, c'est pas comment vous dites, quelque chose de figé. Non, on dit rouge. Peut-être. parce que ça change, ça dépend de la matière, la distance, la lumière, la quantité d'impondérables qui modifie cette générique rouge, par exemple. Alors, la façon, c'est de trouver comment faire évident cette autre information sur le monde chromatique. Bon, j'ai trouvé d'abord les physiques chromiques, qui sont des structures qui, au fur et à mesure qu'on se déplace ou que la lumière se déplace, la couleur flotte dans l'espace. La couleur vient dans l'espace. Il sort du support et vient dans l'espace. Et spécifiquement, cette œuvre de des douches, là. Il y a des phénomènes de la perception, que c'est l'induction chromatique, on appelle aussi les contrastes simultanés ou les couleurs complémentaires.
Voilà.
Mais c'est une fonction de l'œil qui mérite deux tons. Il faut mémoriser comme la persistance rétinienne, comme le cinéma, pour voir après le complémentaire de la couleur qu'on regarde.
C'est là-dessus que vous avez particulièrement travaillé, sur cette perception rétinienne.
La perception de la couleur, voilà. Relation de... qui ça produit beaucoup de choses. C'est un point de départ de mythification, la couleur.
Ah oui?
Et parce que la couleur, c'est affectif.
Oui.
Profondément affectif. Il n'y a pas de support logique pour aimer ou tester en couleur. Quand vous allez au magasin, vous trouvez, ah ça, je veux ça, c'est bleu là. Il y a 18 000 bleus maintenant qu'on connaît l'ordinateur.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi c'est bleu spécifique? C'est affectif.
Vous dites même, je crois, que les couleurs sont euphoriques.
Oui, ça produit l'euphorie sensuelle, c'est tellement sensuel, et surtout touche l'affectivité profonde. On aime vraiment un climat de couleur X, c'est pas pourquoi. C'est une chose qui est intuitive ou d'affection. Et bon, justement,
cette œuvre, il y a trois couleurs là-haut exposées.
Ça nous permet de regarder la nature à travers la couleur. Modifier la transfiguration de la nature à travers de la couleur. Et si on a fait attention, on regarde à travers le bleu, par exemple, ou le rouge, si c'est dans le vert, on regarde le vert, l'œil se sature de vert, et dans les interstices, les lamelles, il y a les complémentaires, il y a un rouge qui apparaît, éphémère. Et comme ça, successivement, dans chaque cabine, comme ça, chaque douche, on perçoit la nature transformée, modifiée, plus la couleur complémentaire que l'œil produit lui-même.
Voilà, parce que quand on rentre dans les cabines de douche, j'allais dire, avec ces lamelles en acrylique, donc très colorées, là, de rouge ou de vert ou de bleu, il y a les trois. Effectivement, avec le vent, là-haut, sur la terrasse du château de la Coste, les lamelles bougent et effectivement, on regarde ce qui est autour et on voit aussi les autres cabines de douche, les autres couleurs.
Oui.
Donc, c'est ça que vous êtes en train de nous...
C'est justement donner une information autre. Parce que l'artiste, c'est un communicateur qui donne des informations sur la vie, sur les choses. Les poètes, l'écrivain, l'artiste, les musiciens nous donnent des informations qu'on ne perçoit pas. Ils nous les codifient et vous pouvez les recevoir de façon plus accessible. Alors c'est ce qu'on essaye de faire avec la couleur. Et je dis, écoutez, c'est pas la même chose un tableau peint. C'est la couleur qui est dans l'espace. La couleur est partout, mais on ne les perçoit pas. Et c'est parce que là, je crois aussi, d'une certaine façon, c'est didactique. Il nous apprend.
Il y a aussi une interactivité avec celui qui regarde ou celui qui traverse les sculptures, les installations. Est-ce qu'une installation ou une œuvre non interactive, c'est une œuvre morte pour vous ?
Écoutez, il y a plusieurs recherches, c'est pas seulement celle-là. Et on vient de faire aussi un software pour interactif dans lequel on peut fabriquer un cruise-yes. Et après, vous voulez faire un printer et vous êtes cruise-yes fait par moi-même. C'est interactif. Et même, il y a des expositions, à ce moment, il y a une exposition à Séoul, à Corée, où il n'y a pas d'emballage, ni douane, ni rien. Tout est envoyé pour une data.
Ouais.
Alors, tout se construit sur place. C'est avec les moyens d'aujourd'hui, l'espace.
L'espace. Ah, ça, c'est ce qu'on peut voir donc, à Séoul, c'est l'installation, c'est, non ? Ça, c'est maintenant ?
C'est un logiciel qu'on peut trouver sur l'Apple Store. Ça s'appelle cruise-yes. On peut interpréter un cruise-yes.
Comme une partition musicale.
Oui. C'est pour iPhone et pour iPad.
Et après, vous pouvez faire passer par email et vous dites que vous y êtes fait par moi-même.
Vous êtes à la pointe de la technologie, là. Vous pouvez envoyer par mail.
Est-ce que vous savez, c'est une partition de musique.
Oui.
L'interprète lit la partition, mais c'est tout l'esprit, tous les instruments de création des musiciens qui sont dedans. Il interprète. Bon, je vous donne tous mes instruments de création. Et vous interprétez, c'est exactement comme une partition.
Vous êtes vraiment le compositeur de la couleur.
Et voilà. Comme ça, vous donne une information meilleure et plus participative
oui.
de la couleur en train de se faire. Parce qu'on aime toujours la couleur, une conception de la couleur déjà faite. La couleur peinte, c'est le passé. C'est du passé. Et justement, cette douche-là, cette couleur, c'est pour mettre la couleur en train de se faire. On est en train de faire la couleur. Sur un tableau, la couleur est déjà le passé. C'est la couleur en présent, dans l'instant. Ce sont des couleurs présentes. Ce sont dans l'instant. On crée la couleur à l'instant. Par contre, si on les peigne, c'est déjà quand on peint, oui. C'est déjà le passé.
Est-ce que vous qualifiez ça d'art vivant?
Oui, bien sûr.
Pas forcément, c'est une évidence.
L'artiste fait toujours que l'art soit vivant, qu'on participe, bien sûr. Qu'on le perçoive.
J'ai une dernière question là. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'œuvre qui est là-haut? Elle est de 68. 68, c'est déjà, c'était il y a plus de 30 ans. C'était dans quel contexte que vous l'avez conçue? Parce que c'est une œuvre, moi je la voyais là, elle ne vieillit pas cette œuvre.
Non, bon, parce que c'est justement.
C'est étonnant, parce que 68, c'est très marqué. Donc vous êtes un des pionniers, mais racontez-nous un peu l'histoire de cette conception, de cette création en 68.
Bon, il y avait de structurer un concept. Ça m'a pris beaucoup, moi je vous dis, beaucoup d'années pour structurer un concept. La couleur dans l'espace, dans lequel j'essayais de trouver le maximum de solutions, la mise en œuvre de ce concept. Hein, que j'ai trouvé pour faire la couleur qui s'est fait dans le moment qu'on le regarde, qui s'est fait par la lumière, par le déplacement, l'instant même, alors c'est des douches. Et ça, aujourd'hui, je suis très content, très touché, parce que les nouvelles générations me disent ce que vous m'avez dit. Ça, c'est une œuvre qui n'a pas vieilli, que c'est actuel. Et c'est la même chose que les chromosaturations, qui sont des chambres de couleurs que, dans lesquelles on rentre, et c'est la perception élémentaire, et il y a des choses qui se passent. Ce ne sont pas que puisse se passer avec la couleur. C'est une révélation.
Une révélation. Et pour nous, c'est un émerveillement. Merci.
Retrouvons maintenant Léonore Schoeffer qui représente l'œuvre de son mari, Nicolas Schoeffer, qui était membre de l'Institut, qui présente à Lacoste une sculpture, Le Soleil, qui date de 1978, et puis également en acier inox poli, Miroir, une sculpture qui est à l'extérieur sur la terrasse, qui s'appelle Lux 11 et qui date de 1960. Elle va nous parler longuement de l'œuvre de son mari dans l'interview qui suit, enregistrée à Lacoste. Léonore Schoeffer, vous êtes ici à Lacoste pour présenter l'œuvre de celui qui fut votre compagnon, l'artiste Nicolas Schoeffer, dont vous avez partagé la vie. Là, on est dans une salle qui lui est consacrée au Château Lacoste dans le cadre de l'exposition Sculpture en mouvement. Et vous allez nous décrire un petit peu à la fois ce qu'on entend et ce que l'on voit ici, où à l'intérieur sont présentées deux œuvres. On va commencer par parler de celle qui est devant nous et qui s'appelle Le Soleil, 1978, qui est un soleil en inox, mais qui est très lumineux. Vous allez nous raconter ce qu'on voit.
C'est-à-dire que nous sommes d'abord dans une très jolie salle tout en pierre, et au fond de la salle, sur un fond de rideau noir, se trouve un soleil, c'est-à-dire une grande conque en acier inoxydable polymiroir, devant laquelle se trouvent des rubans d'acier inoxydable qui font des volutes et des arceaux et des arcs qui s'entremêlent comme un soleil. Et au centre du soleil se trouve un autre petit soleil avec à nouveau des volutes et des arceaux. Et encore au centre, un autre plus petit soleil qui est un écran réfléchissant. En fait, ce soleil, c'est un petit soleil de 1,60 m, je crois, qui est le prototype d'un très grand soleil de 10 mètres qui doit pouvoir participer à des sculptures monumentales, des tours soleil. Et justement, il va y avoir une tour soleil monumentale à 45 mètres qui va être construite avec trois soleils en triangle au sommet, complètement reliée à la ville et à toutes les activités autour, puisque ça sera une tour cybernétique, à Belfort pour la nouvelle gare de TGV. Et ça se passera l'année prochaine, le 6 septembre 2012, si tout se passe bien, parce qu'on ne sait jamais, pour le 100e anniversaire de la naissance de Nicolas Schoeffer.
Alors, cette œuvre, c'est de l'art total, hein, de l'art cybernétique.
L'art total, c'est autre chose. Si mon mari avait voulu vraiment faire cette salle comme il a l'habitude de faire, il y aurait eu de la danse. Il y aurait
en
eu...
plus, ah, oui, bien sûr, évidemment.
Il y aurait eu
vous
des danseurs.
Danseuse,
ah oui, des danseuses ou des danseurs, oui. Il y aurait eu une manifestation physique. Et en plus de ça, l'art total, c'est la synesthésie. Ce sont les cinq sens qui sont sollicités. Donc, il y aurait eu un parfum. D'ailleurs, j'ai demandé s'il y avait des bâtonnets d'encens. J'ai oublié d'en acheter, malheureusement. Il n'y en a pas à Lacoste, donc il n'y aura pas le côté olfactif sollicité, il n'y aura pas le côté non plus gustatif, parce qu'à la porte, il n'y a pas quelqu'un qui vous distribue une petite pastille de quelque chose. Donc il y a juste le côté sonore et visuel, et le côté tactile avec l'autre œuvre, mais on en parlera tout à l'heure. Donc cette sculpture reçoit les projections d'un vidéoprojecteur qui contient à la fois de la couleur en tant que telle et un film abstrait qui a été créé par Nicolas Schoeffer au moment où il a voulu une abstraction pour son grand spectacle cybernétique à l'Opéra de Hambourg qui s'appelait Kildex 1, qui est le premier grand spectacle interactif. Après cela, on a eu des tas d'émissions de télévision interactives, etc., où les gens peuvent manifester, participer au spectacle, etc. Et alors donc, cette musique, nous en avons enregistré 3 épisodes qui sont enregistrés sur un disque Ungaroton qui a été créé par Ungaroton au moment où on a fait un hommage à Bartok. Donc c'est un disque un peu historique. Mon mari était hongrois. En fait, quand il est né, c'était encore l'Empire austro-hongrois en 1912. Mais il était donc hongrois et il est venu en France en 1936 après ses études de droit et ses études de l'École des Beaux-Arts de Budapest. Et il est venu en 1936.
À Paris, à Paris, où il a vécu après
Alors il a vécu très agréablement tous les premiers temps. Pour lui, Paris a été la découverte de la liberté, de la beauté, des espaces et tout. Il était fou de joie. Il paraît qu'il parcourait Paris. Il faut imaginer un Paris sans voiture à l'époque. C'est-à-dire vraiment la possibilité de marcher, 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 etc.
Revenons au film alors.
Oui,
là, et à l'œuvre. Vous nous parliez de ce film, il en a fait une cinquantaine. Il était à l'avant-garde.
Il était peut-être à l'avant-garde, mais il a surtout créé la avant-garde d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Puisqu'il a écrit 10 livres fondamentaux.
C'était aussi un théoricien.
Il a écrit énormément de textes pour exprimer sa pensée et qu'on ne lui fasse pas dire n'importe quoi sans connaître ses intentions ni le but de son œuvre. Donc, c'est lui qui a évoqué immédiatement les mondes virtuels. L'avant-garde d'aujourd'hui sont les jeunes qui travaillent dans le virtuel, dans Second Life, dans les œuvres numériques, etc.
On va donc parler de l'autre œuvre qui est dans cette salle.
Voilà, mais là je n'ai pas dit que le soleil projetait ses rayons sur les deux parois et au sol, et même au plafond. Il aurait fallu un vélum d'ailleurs au plafond, parce que là on a toute l'infrastructure, mais peu importe, l'œuvre réfléchit, reprojette ses rayons, les rayons de la vidéo, au sol, et c'est tout le temps changeant, parce que le soleil tourne lentement, et que toutes les surfaces capteurs de lumière sont constamment changeantes. Et c'est ça qui est important, c'est la réflexion. Et mon mari, toute sa vie, a travaillé dans la réflexion, rétro-réflexion, rétro-rétro-réflexion, ce qui lui a fait écrire d'ailleurs un livre qui s'appelle « La théorie des miroirs ». On a suspendu 3 grandes loupes, des lentilles loupes en plastique. Il y en a une qui est suffisamment haute pour qu'on voit le soleil depuis la petite mezzanine, mais en même temps, on ne peut pas s'en saisir. On ne peut rien faire avec personnellement, elle est inaccessible. Une autre est à la hauteur des grandes personnes, on peut jouer avec.
Comme
voir...
toutes les œuvres qui sont là, le et public est invité à se saisir des éléments.
Et là, celle qui est tout en bas, c'est pour les enfants. Voilà.
Voilà. Donc là, elle aussi, elle est
voilà,
une sculpture.
Voilà, ce sont des loupes, alors on voit les rayons lumineux qui sont concentrés, on peut déformer, on peut se voir l'un l'autre agrandi. C'est toujours un peu amusant, ça fait partie de... l'animation de la salle.
Et sur la musique qu'on entend ?
Alors la musique, ce sont les chronos sonores. Et ces chronos sonores sont des œuvres qu'il a réalisées sur un orgue Yamaha, qui était comme un orgue d'église avec les pédales, etc. Et un système d'enregistrement qui était très perfectionné. Et il les a enregistrés parce qu'il faisait des musiques très dynamiques. Et cette musique, elle est méditative. Il a enregistré quand il m'a entendu, moi, accorder mon instrument de musique, la tempura, et jouer longtemps de la tempura au pied de sa loggia, où il travaillait, parce qu'on voulait prendre une photo de moi en train de jouer pour un stage que j'allais faire. Et alors, comme je ne voulais pas qu'on me prenne une photo artificielle, j'ai dit, vous prendrez la photo quand vous voulez, mais moi, je me prépare, je joue tranquillement et c'est tout. Et lui, il était là-haut, et en dessinant, il entendait ses sonorités, toujours quinte et octave, tranquille, l'accord parfait, tranquille, qui se développait. Et alors, il a été inspiré à jouer ça, et j'étais très heureuse.
Je pensais qu'on allait en parler dans l'œuvre qui était dehors,
mais c'est bien. C'est une luxe, oui. Alors donc la deuxième œuvre, ici, c'est un écran tactile, un grand écran à LED, qui a été transformé de manière à ce qu'on puisse le toucher pour obtenir les résultats. Mais évidemment, comme c'est une grande première, comme toutes les grandes premières, elles sont difficiles à mettre au point. Et si ça se trouve, il y aura des bugs. Et si ça se trouve, on aura des petites pannes où ça ne fonctionnera pas. Je n'en sais rien du tout. J'espère seulement que ça fonctionne.
Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cet écran
tactile? Alors, j'ai voulu montrer d'abord à droite de l'écran. Voilà. Vous voyez qu'il y a une grande image qui est en fait un grand ectachrome, immense ectachrome, de la tourlinière cybernétique qui devait se trouver à La Défense, à Paris La Défense, et qui devait être construite du temps du président Pompidou. Et le président Pompidou, qui était très ouvert à l'art contemporain et au futur, devait donner sa garantie d'État. Malheureusement, il est mort. Et ensuite, il y a eu deux crises de l'énergie consécutives qui ont fait basculer la psychologie de la société, je dirais, dans une telle direction que c'était l'inverse même du futur, l'horreur des projecteurs, des moteurs, etc. Donc, aucune de ces choses-là n'a été favorable à la réalisation de cette tour. Et quand mon mari a terminé son livre, La tour lumière cybernétique, il a dit en le refermant, de toute façon, elle a été travaillée par toutes les plus grandes entreprises françaises dans tous ses détails, virtuellement, elle existe et elle aura ses effets. Eh bien, un des effets, c'est qu'un des artistes d'aujourd'hui, spécialiste de la robotique de simulation, Ördög László, a eu l'idée, avec Agota Nagy, qui avait déjà travaillé sur la tour en 3D, ils ont eu l'idée de réaliser cette tour cybernétique dans les mondes virtuels. Et c'est le Cybernetic Art Research Project, une société qui groupe des artistes cybernéticiens, dirons-nous, du monde entier. Ils se sont tous groupés pour arriver à réaliser cette tour qui posait des problèmes techniques naturellement.
Pour la réaliser virtuellement,
oui.
Mais concrètement,
c'est la matérialité virtuelle, voilà. Elle est plus subtile que la matérialité matérielle. Et on peut faire dans ce monde subtil beaucoup de réalisations qu'on ne peut pas faire sur la Terre. Par exemple, les deux musées que j'ai là-haut, je ne peux pas les avoir ici. Il n'y a pas le terrain, il n'y a pas l'argent. Donc, cette tour à tous les étages comporte des œuvres cybernétiques d'autres artistes et sa base, son socle, est avec une exposition du visage de mon mari, des livres de mon mari. Il y a toute une référence à Schoeffer.
Ça, c'est ce qu'on peut donc trouver sur Internet.
Oui, oui.
Il y a un site, mais il y a aussi Second Life. C'est là qu'on va.
C'est dans Second Life. Alors, dans Second Life, tout le monde peut se faire un avatar.
Et vous en avez un, Léonore
Schoeffer. Oh, j'en ai même trois. Mais... mais alors, j'ai un avatar, effectivement, et j'ai pris des images de mon avatar dans la tour, à différents niveaux, devant mon mari, etc. Même habillé autrement, comme si c'était un autre personnage.
Et là, le public à la
Coste. Normalement, ils doivent me voir, là.
Voilà.
Ils doivent voir mon avatar dans la tour et explorer la tour grâce à mon avatar et grâce à une vidéo qui a été faite par Ördög László.
Vous avez dû être fascinée quand vous avez vu cette concrétisation.
Ah, j'étais ravie. Et alors, vous savez, ils font des fêtes. Tous les avatars se réunissent. Il y a de la musique, il y a tout ce qu'on veut. On peut voler, on peut danser, on peut faire tout ça. Et même pour mon anniversaire, ils m'ont fait une fête dans la tour.
Alors, on va aller dehors.
Oui.
Et on va parler d'une autre œuvre qui est exposée,
la
qui s'appelle
troisième, oui,
Lux
203,
11, qui date de 1960 et qui fait partie des sculptures spatio-lumino-dynamiques. Et vous allez sûrement nous expliquer ce que c'est que ce concept de spatio-lumino-dynamique qui a été inventé par Nicolas Schoeffer.
Oui.
A-t-il travaillé avec Monsieur Claude Parent?
C'est Claude Parent qui a travaillé avec mon mari quand il était jeune architecte.
Bon,
quand mon mari a inventé le spatio-dynamisme, tous les architectes sont venus travailler avec lui.
Oui, oui. C'est pour ça que je pensais qu'il avait quand même une formation d'architecte.
Non, sa formation, elle est autre. De même qu'il n'était pas un ingénieur, il n'était pas un technicien, il n'était pas un bricoleur. Lux 11, c'est la 11e du lumino-dynamisme. Alors, quand mon mari a quitté la peinture, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse autre chose. Et il s'est demandé quoi faire. Et il s'est demandé qu'est-ce qu'il aimait, parce qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime. Et il a réalisé qu'il aimait la statuaire grecque. Mais la statuaire grecque, un jour elle est apparue, avant elle n'existait pas. Et il a vu que c'est parce qu'il y avait un nouvel outil. Si Phidias et Praxitèle ne l'avaient pas utilisé, on n'aurait jamais eu la statuaire grecque. Donc il a réalisé que c'était le devoir de l'artiste de se saisir des nouvelles technologies qui sont créées pour la guerre ou pour le bien-être matériel par remords de conscience et de les transcender pour en faire de l'art, c'est-à-dire du beau et du sens. À partir de ce moment-là, il s'est dit, bon, alors quel est le nouveau ciseau ? Et puisque j'aime la sculpture, je dois faire la sculpture. Alors il a fait de la sculpture avec le nouveau ciseau, qui est le ciseau électronique. Et pour montrer, alors les Grecs montraient le corps et l'âme, une âme dans un corps. Ça correspondait à la grande question, qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est une âme dans un corps. Mais quelle est la grande question pour mon mari ? C'est qu'est-ce que la vie ? Espace, lumière, temps. Espace-temps, Einstein,
et d'ailleurs, c'est
cette
grande lumière, thématique.
Voilà. Donc il s'est dit, c'est ces trois matériaux immatériels que je dois montrer. Montrer l'espace, montrer la lumière, montrer le temps. Alors, première période des sculptures, les spatio-dynamiques, c'était la première fois que le regard pouvait traverser une sculpture. Ce sont des structures ouvertes.
Oui.
Alors que jusque-là, elles étaient pleines, elles encombraient l'espace, il fallait tourner autour. Tandis que là, elles n'encombrent pas l'espace, on voit à travers. Alors, la deuxième partie, c'était rajouter la lumière. Pour ça, il y a des plaques perforées différemment, donc ça donne des gris différents, ça donne des effets différents de réflexion de la lumière, etc. Et en plus de ça, il ajoutait des projecteurs, ça faisait du cinétisme, il ajoutait un moteur, un plateau tournant, ça faisait du cinétisme. Là, il était un artiste cinétiste. Ensuite, il a fallu montrer le temps. Pour montrer le temps, il fallait que la sculpture varie suivant les moments. Il fallait donc qu'elle ait des variables. Donc il a accroché des variables dans la sculpture. Et ces variables, c'était des miroirs tournants avec des petits moteurs à des vitesses différentes, etc. Et pour ça, il les a programmés en plus. Il a fait un programme. Alors, le chronodynamisme, c'est ça. Et une sculpture chronodynamique, elle est à la fois spatio-lumino-chronodynamique.
C'est la synthèse de toutes ces recherches.
Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le chronodynamisme n'est pas le cinétisme. Le chronodynamisme correspond à une partition musicale. C'est le programme de mon mari, une partition musicale. Le programme est fait pour mettre en mouvement les paramètres. La composition musicale, elle est faite pour mettre en mouvement les paramètres que sont les instrumentistes. Mais le compositeur ne fait pas sa composition pour faire bouger les instrumentistes. Il n'a pas comme but le mouvement du cinétisme. Il a comme but d'avoir des événements sonores plus ou moins importants espacés dans le temps, alternant avec des silences. Et pour mon mari, c'est des événements visuels plus ou moins importants alternant avec des silences dans le temps, visuels et non pas sonores. Alors Luxon, ce que vous voyez là, c'est sur une immense terrasse magnifique, entourée de murs anciens, à moitié écroulés, etc., etc. Et juste devant Lux se trouve le pénétrable de Soto, qui est bleu. Et alors, comme Lux reçoit la lumière environnante et qu'elle la réfléchit, suivant l'éclairage qui l'entoure, elle réfléchit ce qui l'entoure. Alors on voit sur Lux toute une partie qui est bleue, parce que c'est le bleu du pénétrable. On voit une autre partie qui est plus grise, ce sont les pierres. Une autre partie qui est blanche étincelante, parce que les rayons se réfléchissent directement, etc. Elle est sur un petit socle plat qui ne tourne pas. Moi, j'aurais aimé avoir un socle tournant, mais c'était plus difficile à réaliser dans le contexte de cette exposition. Donc, on ne voit pas toutes ses faces, et on est bien obligé peut-être de tourner autour pour voir toutes ses faces, parce qu'elles présentent des aspects très différents. Elle n'est pas symétrique.
Donc là, on a trois œuvres quand même
très différentes,
très différentes, de périodes différentes et tout à fait significatives de l'œuvre de Nicolas Schoeffer, qui est une œuvre immense, méconnue. Enfin, pas méconnue, mais très connue.
Oui.
Et surtout, ce que je veux dire, c'est très connue de la génération de M. Cardin, par exemple, qui a accompagné tout ce mouvement aussi. Et puis aujourd'hui qui est repris, un héritage quand même de toute cette œuvre qui est repris par les artistes aujourd'hui qui travaillent avec le numérique.
Mais c'est-à-dire que tous ces jeunes artistes sentent que la personne qui a ouvert toutes ces voies,
c'est Nicolas Schoeffer
qui a ouvert toutes ces voies. Et donc ils le reconnaissent un peu comme on reconnaît un père, un ancêtre, etc. Ce qui les conforte beaucoup parce que très souvent quand on travaille avec les nouvelles technologies, on ne vous traite pas d'artiste. mais de technicien, vous voyez. Et du temps de chauffeur, je vais vous dire.
C'était déjà
pareil.
Quand
il a fait ces superbes sculptures qui tournaient, qui bougeaient, etc., on disait, mais c'est de la quincaillerie. Et puis on dit, comment une chose comme ça dans un musée? Jamais. Des moteurs dans un musée, jamais. Vous comprenez, tout change, tout change. Et quand on est pionnier, on est toujours critiqué. Et alors c'est comme le premier train qui faisait 35 à l'heure, mais on va mourir.
Alors Léonore Schoeffer, on vous donne rendez-vous sur Canal Academy pour revenir parler de l'œuvre.
Ah oui, pour
de
le
Nicolas
centenaire.
Schoeffer.
Pour le centenaire, il faut faire beaucoup de choses. Moi, je suscite en ce moment beaucoup d'actions pour le centenaire. Il faut fêter, rendre hommage à cette œuvre qui a marqué l'histoire et qui marque l'histoire.
Merci de nous avoir accordé cette interview devant les œuvres. Je sais que vous êtes en pleine installation, que c'est quasiment fini, mais c'est très gentil à vous.
Je suis encore.
Et puis
en train
rendez-vous pour l'actualité à venir de
Merci.
Nicolas Schoeffer. Et vous êtes invité à venir nous parler de son œuvre quand vous voulez.
Merci, c'est très très gentil. Merci.
J'espère que ces trois interviews, celle de Lydia Arambourg, qui est une grande spécialiste de la sculpture, celle de Cruz Diez et celle de Léonore Schoeffer, vous inciteront à vous rendre au Château de Lacoste pour voir cette exposition de sculpture qui s'intitule « Sculpture en mouvement » en hommage aux pionniers de l'art cinétique et cybernétique. C'est tous les jours à Lacoste sur la terrasse du château jusqu'au 2 octobre 2011.